est vrai que selon telle ou telle cause, le processus peut être plus ou moins rapide. Et il est évident que beaucoup de personnes souhaitaient cette béatification de Jean-Paul II. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que l'annonce et l'appel à Santo Subito au moment des funérailles de Jean-Paul II avait retenti sur la place Saint-Pierre. Donc on sait bien que nombreux sont dans le monde les gens auprès des communautés religieuses et d'autres, et surtout, bien entendu, dans la population polonaise, tous ceux qui souhaitaient que cette procédure puisse être accélérée. Je pense que les moyens et tous les moyens ont été mis pour que les choses ne traînent pas. Alors après, vous savez comme moi la règle, il s'agissait de reconnaître un miracle attribué à l'intercession de Jean-Paul II et ça a été fait donc récemment.
Alors justement, Santo Subito, a-t-on entendu, vous l'avez dit, dès la mort de Jean-Paul II, en quoi ce pape est-il celui de la sainteté d'après vous? En quoi a-t-il pu incarner la sainteté?
Pour l'avoir suivi donc pendant plusieurs années et avoir vu son apostolat et son ministère, il me semble que si on peut reprendre une image un petit peu caricaturale, mais qu'il pourrait bien le représenter, je dirais que il se situait très bien entre les gens qui sont sur terre et puis et ces mêmes gens qui peuvent imaginer le ciel, autrement dit à mi-chemin entre la terre et le ciel. Je trouvais qu'il incarnait parfaitement cette image parce qu'à la fois il était perçu comme un homme d'un profond mysticisme, hein, une grande proximité avec le Christ à travers sa prière permanente, à travers aussi son souci de transcender la souffrance qu'il a pu rencontrer tout au long de sa vie. Mais ce mysticisme était toujours incarné, n'était jamais irréel, puisqu'il s'incarnait tout le temps dans le monde dans lequel il vivait, la proximité qu'il avait auprès des gens, le charisme qu'on lui a reconnu, cette chaleur dans le contact, cet amour des autres, les enfants qu'il prenait dans ses bras. Donc autrement dit, d'un côté, une proximité vers Dieu et le Christ à travers son mysticisme qui était en effet patent, mais aussi un mysticisme toujours relié à la réalité du monde dans lequel lui exerçait son ministère.
Jean-Paul II a donné un visage aussi à la souffrance, notamment à la fin de sa vie. Est-ce que cette souffrance fait partie de la sainteté selon vous ?
Alors, il est intéressant de constater en effet que la souffrance était très présente, d'ailleurs sous deux aspects. Hein. N'oubliez pas la souffrance morale, puisque c'est un homme qui s'est retrouvé orphelin à 21 ans. Hein. Il a perdu sa mère, il avait 9 ans, son frère, il avait 12 ans, son père, donc pendant la guerre en 1941. Cette souffrance morale a été complétée par en effet une vie traversée par de grandes souffrances physiques, puisqu'il a eu en effet de multiples opérations après, bien entendu, la principale souffrance qui a été l'attentat du 13 mai 1980. Et ça s'est terminé, on le sait, par cette grave maladie qui l'a emporté de Parkinson. Donc tout ça fait qu'il était le mieux placé, Jean-Paul II, pour estimer et pour apprécier la place de la souffrance dans la vie d'un homme et le rapport de cette souffrance avec la foi. Il a transcendé la souffrance, et c'est là probablement un volet de son mysticisme, il a transcendé la souffrance en la faisant en quelque sorte rédemptrice. Et donc il a fait un lien permanent durant les épreuves qu'il a connues dans sa vie avec les épreuves qu'a pu connaître le Christ. Et je vous rappellerai les épisodes réguliers qui ont été frappants à cet égard. C'est quand Jean-Paul II faisait le chemin de croix sur le Colisée à Rome chaque vendredi saint. On sentait bien, notamment dans les dernières années de sa vie, qu'il tenait beaucoup à participer et à présider cette cérémonie, parce que je pense que c'est là où en est le mieux, cette relation entre à la fois cette souffrance physique en quoi elle peut apporter quelque chose dans l'expression de la foi et dans la compréhension du mystère de la rédemption, et en quoi cette souffrance que vivait Jean-Paul II pouvait aussi le rapprocher, ça aussi ça me paraît important par rapport à son lien avec les autres, cette souffrance que lui vivait le rapprochait de la souffrance que vivaient tous les autres, les malades, les handicapés, les personnes faibles, les blessés de la vie, comme il les a appelés lors de son voyage en France, tous ceux qu'il a pu rencontrer au cours de ses voyages.
Peut-être voulez-vous rajouter quelque chose que l'on n'aurait pas abordé selon vous ou qui vous tient à cœur ?
Je pensais à un mot auquel je n'ai peut-être pas suffisamment fait allusion à propos de son témoignage de sainteté, c'est la présence de la prière permanente chez cet homme. On sait bien qu'il saisissait la moindre occasion pour s'éclipser, s'éloigner dans une chapelle, prier. Il l'avait fait constamment dans sa jeunesse, hein, au moment de prendre les grandes décisions de sa vie, sa vocation notamment, au moment de la mort de son père. Et même dans un voyage, j'ai quelques souvenirs, quand Jean-Paul II, au cours des messes très longues, eh bien on le trouvait en quelque sorte un peu affalé dans son fauteuil. On se demandait s'il n'était pas trop assoupi. occupé. En fait, je pense qu'il profitait de quelques instants de recueillement pour méditer, pour prier. Ça, c'était la caractéristique essentielle de cet homme, c'est qu'il savait en quelque sorte s'éloigner, s'éclipser de la scène pour s'abîmer, comme on dit selon l'expression, pour s'abîmer dans la prière, c'est-à-dire pour vraiment retrouver ce lien direct avec le Christ. Et c'est ça, à mon avis, qui caractérise parfaitement le personnage, c'est-à-dire quelqu'un qui était tout le temps en lien très charismatique avec les autres, mais qui savait par ailleurs maintenir et préserver un lien très personnel à travers la méditation, la prière avec le Christ.